4.
Gardez les yeux ouverts. Une émission socioculturelle proposée et réalisée par Stéphanie Andrès. Tous les mercredis et samedis, entre 17 et 18 heures, et en rediffusion pendant un mois. À réécouter en podcast sur le site de radioquipique.org. K-I-P-I-K. Aujourd'hui, je vous emmène chez Nadine Debay, une femme forte et indépendante, comme on les admire. Une artiste en toute puissance, sculptrice, danseuse et musicienne. Dompteuse de matière, faiseuse de rêves et de paix. Nous irons chez elle, puis dans son atelier, pour sonder sa démarche artistique et son besoin vital de créer. Approcher sa vérité et caresser ses bronzes. C'est tout près de chez nous, au Carlabaille, et un peu plus loin, en Afrique. Nadine, on est chez toi, dans ton atelier qui est devenu ta maison. Pas facile. Comment tu te définirais, toi, dans l'absolu ?
Comment je me définirais ? Alors, je suis une femme.
En es-tu bien sûr ?
Assez indépendante, c'est-à-dire très autonome dans ma vie. Donc, assez libre de mes faits et gestes. Et j'ai exploré pas mal de pratiques artistiques pour me permettre d'exprimer ce que j'appréhendais, ce que je ressentais du monde et de la société dans laquelle on vit. Et pour mieux me définir, j'ai un besoin de créer qui est très fort, que ce soit à travers la sculpture, la musique, la danse. J'ai besoin de m'exprimer plus à travers des gestes qu'à travers les mots.
Comment tu disais que ça s'appelait les hommes là, qui t'accompagnent
dans... Alors les hommes forgerons, on les appelle les noumoutiers. Parce que les noumous, ça veut dire forgeron. Et tier, c'est homme. Et du coup, ils m'ont donné un surnom de femme forgeron. Donc noumou mousseau. J'aime bien.
Tu vois, tu dis que t'es une femme indépendante. Mais là, pour le coup, quand tu coules, t'es dépendante de ce petit groupe autour de toi.
Oui, oui, il y a une dépendance. Après, je participe à toutes les étapes quand même, sauf le moulage, parce que c'est pas ce qui me passionne. Donc, c'est eux qui font les moules. Mais la coulée, je coule aussi avec eux, le creuser. Et puis après, il y a la ciselure, il y a le dégrossissage, puisque une pièce, elle sort pas parfaite, loin de là. Loin de là, c'est bien pour ça que les pièces en bronze ont un coût élevé. C'est qu'il y a beaucoup d'étapes.
Ouais, c'est ça.
Et même quand la pièce sort du moule, elle est... il faut beaucoup la travailler. Déjà, il faut enlever les tiges de coulée parce que la pièce, c'est ce qu'on appelle des évents qui circulent tout autour de la sculpture. En fait,
c'est quoi des évents ?
Ce sont des tubes de cire qu'on va mettre d'un bout à l'autre de la sculpture ou dans les endroits un peu...
inaccessibles ou...
Bah oui, les endroits plus compliqués. En fait, on va mettre des tiges de coulée pour que le bronze à chaud vienne bien circuler partout. J'évite des manques, en fait, dans la pièce quand on la sort. Donc, il faut déjà couper toutes ces tiges de coulée. Et puis après, il faut remeuler, il faut poncer. Parfois, il y a des soudures à faire aussi, parce qu'il y a parfois des trous, des manques, suivant aussi la qualité du bronze, quoi.
Et ensuite, tu passes à la patine, c'est ça ou...
Après, quand la pièce est vraiment aussi poncée, polir à la fin, pour qu'on ait une surface qui soit agréable à toucher, là, je vais passer à la patine. Donc, il y a une première couche à chaud avec un produit qui s'appelle le barège, qui va être une première couche de patine à froid, qui va permettre après aux oxydes et au cuivre, aux nitrates de cuivre, de fer, de potassium, de s'accrocher au métal, et à chaud cette fois-ci. Et là, ça va créer une oxydation accélérée du métal, donc ce qu'on appelle la patine.
Super, j'ai rien compris. quand tu parles des oxydes et tout ça, c'est des pigments que tu rajoutes ou qu'ils font, oui. qui sont déjà dans la... Dans
non, 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 c'est tu rajoutes à chaud. Ah, rajoutes à chaud. Après la première couche à froid, tu rajoutes, tu vas chauffer le bronze à une centaine de degrés et là, tu vas poser au pinceau des oxydes. Je me sers beaucoup du nitrate de cuivre parce que c'est ce qui fait un bleu turquoise un peu, j'aime beaucoup.
Ah ouais, je vois.
Après, bon, l'oxyde de fer, il y a du potassium pour donner des bleus plus verts. Enfin, il y a pas mal de produits qu'on peut utiliser. Si on veut blanchir aussi le bronze, on peut utiliser du blanc de titane. Enfin, il y a pas mal de produits qu'on utilise, mais cette fois-ci à chaud. Donc on chauffe au chalumeau et on pose au pinceau. Après, il y a d'autres façons de patiner, mais moi, c'est celle que j'utilise.
Et en fait, c'est assez complet parce que tu as toute la partie modelage, terre, où là, tu es dans la matière volume. Ensuite, tu passes au moule. Là, tu as ta sculpture en métal rigide. Tu vas la retravailler, tu vas la lisser, tout ça. Mais là, tu peux plus trop intervenir là, quand elle est coulée.
Ben, quand elle est coulée, tu vas poncer, passer les, tu vas travailler avec des disques, hein, machines et disques pour vraiment dégrossir tout ce qui a été tige de coulée. Et ensuite, tu vas poncer aussi au papier de verre les petits résidus. Et puis, je me sers aussi beaucoup de petites mèches au diamant avec une Dremel pour aller dans les détails. Mmh. Bon, quand il y a des visages ou des cheveux ou des mains, des choses comme ça qui sont plus, je sais pas, très très figuratives, mais c'est
au niveau thématique, c'est surtout des personnages que tu fais. Je sais pas trop dire si c'est féminin, masculin. Mais...
Alors moi, j'aime bien travailler autour de l'énergie de l'être humain. Et du coup, j'ai abordé, il y a plusieurs univers en fait, parce que ça fait quand même 35 ans que j'ai commencé. Donc il y a eu plusieurs j'aime pas dire le mot période parce que j'aime bien revenir, j'aime bien aller dans chacun de mes univers en fonction de aussi moi comment je suis et où je suis. Donc le premier univers que j'ai exploré quand je suis arrivée en Afrique, c'est l'univers des déesses mères en fait. J'ai été très inspirée pour travailler autour du féminin sacré et de l'interprétation du féminin dans différentes cultures. Bon, j'adore les arts anciens. J'aime beaucoup aller dans les musées d'art ancien, archéologiques, où on découvre des petites figurines qui datent de les plus anciennes, elles ont 32 000 ans. Quoi, donc,
comment ça s'appelle, les petites bonnes femmes rondes?
Les déesses mères.
Sur la fécondité, là, oui, tu vois, les toutes petites comme ça. Oui.
Les déesses de fécondité, ouais. C'était aussi des talismans, c'était des façons aussi de favoriser la fertilité chez les femmes. Il y a aussi eu beaucoup de rites autour du féminin, puisqu'avant on était quand même plus dans des sociétés matriarcales ou équilibrées que patriarcales. Donc il y a eu énormément de sites autour du féminin qu'on a transformé petit à petit avec les époques.
Et c'est marrant parce que, tu vois... Les femmes que tu peux faire, ta représentation de la féminité, plutôt que d'être charnue avec des seins, des fesses, des ventres, en fait, elle est très filiforme quand même.
J'ai des féminités, on va dire, plutôt que des femmes. J'ai des féminités qui sont très larges de hanches, mais qui effectivement sont plutôt dans un côté plat.
Voilà, c'est ça.
Et ça, en fait, c'est un peu en clin d'œil à l'art cycladique qui est très très plat. Et aussi parce qu'en Afrique, comme je travaillais en cire d'abeille, bah, j'étais plus limitée pour faire des choses en ronde bosse. C'était plus compliqué. Et pour moi, aller vers ce plat, c'était aussi aller dans l'essentialité de l'être, de représenter juste son énergie de vie. Et non pas forcément bah, tout le volume qu'on représente, mais plutôt la dynamique de vie, l'énergie de vie qui peut être insufflée dans nos corps.
D'accord. Et cette dynamique, c'est vrai qu'elle, tes sculptures, elles sont verticales.
Oui, très verticales.
Donc l'énergie de vie, tu la vois...
Tu pars de la terre jusqu'au ciel. Voilà.
Plutôt que dans le charnel.
Voilà, c'est ça. Il y a que ce côté qui est en lien aussi avec la spiritualité, hein, puisque pour moi, les déesses mères, c'était tout un culte aussi. Hein, donc c'était aussi un monde de croyances, un monde de comment dirais-je, de reconnaissance aussi, de louange envers l'énergie de vie, l'énergie de ces femmes qui donnaient vie, qui mettaient la vie au monde. C'était aussi très spirituel et c'est vrai que tout ça, je l'ai compris après, hein, ça a été, c'est pas forcément, j'ai pas fait ça pour ça, c'est parce que j'ai compris après pourquoi j'avais ces sculptures qui sont entre terre et ciel. Bah, c'est notre lien au divin. Voilà, c'est, l'idée c'est de trouver l'équilibre entre ce qu'on a à vivre ici, notre corporalité, notre matérialité et notre lien à la terre-mère. Et puis aussi de se relier au Père divin, si on peut dire, et à la spiritualité.
Peut-être ce mot, c'est d'être aligné, non enfin, c'est oui. Le mot qui me vient avec la sculpture.
Oui, tout à fait. Que comme ça passe par un procédé de transmutation, les sculptures en bronze, parce que je ne peux pas faire ça en terre, c'est trop plat, c'est trop fragile, on ne peut pas faire des terres cuites qui soient très très fines comme je réalise en bronze. Fragile, donc le travail de la cire me permet d'aller dans quelque chose de très fin et de très vertical, sans que ça soit cassant et qu'au contraire, ça soit pérenne. Quoi.
Quelle sculpture ça fait la plus monumentale, ton souvenir que tu as ?
En bronze, les deux pièces les plus grandes, parce qu'elles ont à peu près la même taille, il y a eu un couple très très unifié, qui mesure 1,70 m en bronze, mais qui est assez épais par contre. Je l'ai fait en terre et c'est une pièce que j'ai coulée en France. Et là, en fait, on a les deux corps qui sont vraiment très très unis, qui sont travaillés d'une façon un peu abstraite sur les rythmes du corps, donc beaucoup de courbes et d'arêtes. Et l'homme et la femme se fondent en un seul. Je voulais vraiment interpréter la dualité dans l'unité, cette rencontre du yin et du yang. C'est une des deux plus grandes que j'ai faites en bronze. Et l'autre, alors celle-ci je l'ai réalisée en France, en terre au départ. Et l'autre, c'est une pièce que j'ai réalisée en Afrique, mais je revenais d'Inde. Et j'avais été dans un temple, le temple Jain, qui se trouve dans le Karnataka, un grand temple Jain, où il y a la plus grande sculpture monolithique d'Inde en pierre, et qui représente un dieu Jain, qui il a les végétaux qui lui ont poussé dessus parce qu'il est resté un an debout, sans bouger, en méditation. Et donc, je revenais d'Inde et je partais au Burkina. Et là, j'ai réalisé une sculpture qui s'appelle le Premier Homme, et qui est un personnage tout plat, tu pourras voir tout à l'heure, il est à l'atelier. C'est un personnage tout plat et qui mesure 1,90 m. Et donc, il est en accueil, les bras ouverts. Et il est très, très épuré. Il est, c'est le premier homme.
C'est l'homme qu'il te faut dans ta vie maintenant, alors. C'est celui-là.
Un peu maigre à mon goût. On va se cogner, là.
Pa' qué tanta dor, pa' qué tanto ódio, se somos irmãos, e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Pa' qué tanta dor, pa' qué tanto ódio, se somos irmãos, e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Oh, 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 vem cá de dentro, a nossa terra está a morrer.
C'est vraiment un mélange entre l'Inde et l'Afrique, en fait, au niveau de la réalisation. Et à...
Tu t'inspires, tu voyages beaucoup. Là, je ne sais pas combien de pays tu as fait depuis que tu es petite.
Ma petite, je n'ai pas voyagé parce qu'avec mes parents, on n'a jamais voyagé. Et c'est après, en fait, à partir de mes... J'ai fêté mes 20 ans, mon premier voyage en Grèce. Et puis après, j'ai voyagé pas mal, oui. Bon, un peu partout, en Amérique du Sud... J'ai fait beaucoup de symposiums de sculpture en Europe de l'Est, Bulgarie, Roumanie, Tchéquie, Hongrie. J'étais invitée pour des symposiums sur terre, on travaillait la céramique. Après, j'ai voyagé en Asie aussi pas mal, l'Inde, la Thaïlande, Bali, des fois j'en oublie. Et puis ensuite, bah, l'Afrique, en fait, a venu après. Quand j'ai commencé à aller en Afrique, je voyageais plus trop ailleurs, en fait.
Ah, ok, t'as trouvé.
Parce que je...
Ouais,
oui, voilà, j'avais vraiment... Puis, ouais. Puis en plus, je pouvais y faire des choses, aussi bien autour de mon travail, mais aussi j'ai monté une bibliothèque là-bas, une résidence d'artistes, où j'ai ouvert à d'autres artistes de France et de Belgique, notamment, qui sont venus travailler le bronze là-bas. Puis il y avait la musique aussi, la danse là-bas, donc... Donc j'avais moins besoin de partir ailleurs, quoi. Il y a eu le Maghreb aussi, le Maroc, Tunisie.
Ok, en fait, tout ça, c'est quoi? Curiosité de ce qui peut se fabriquer ailleurs. Esthétiquement aussi, comment on transforme la matière? Qu'est-ce que tu allais chercher comme ça?
J'aimais beaucoup rencontrer les artisans dans les pays où j'allais, voir leurs techniques, effectivement. Après, j'adore tout ce qui est architecture aussi, ancienne. Les sites archéologiques, j'aime beaucoup flâner, m'imprégner en fait de l'histoire de ces sites. J'aime bien la mythologie aussi, ça se reflète dans mon travail. Mes déesses sont accompagnées de noms, souvent en rapport avec certaines mythologies, certaines cultures anciennes. Et puis j'aime bien faire du lien aussi entre les différentes cultures. En fait, on retrouve les mêmes rituels, les mêmes entre les différents continents. En fait, on est une énorme tribu mondiale qui avons dispatché nos connaissances, mais au fond, si on regarde dans l'ancestralité, on retrouve les mêmes façons de faire.
Oui, en fait, je retrouve une unité malgré les kilomètres.
Oui.
Une unité, quelque chose qui se répète.
Quoi. Oui, il y a une source de connaissances, de savoir, qui finalement se rejoint à plein de points de vue, en fait. Au niveau philosophique, au niveau création, au niveau de l'architecture aussi, il y a des choses qui sont spectaculaires. On ne peut pas citer d'exemples comme ça, simplement déjà, ne serait-ce les pyramides, tu vois, qu'on retrouve quand même un peu partout dans le monde. Il y en a beaucoup dont on ne parle pas, il y en a en Chine, il y en a en Bosnie, on n'en parle pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de tumulus comme ça, pyramidaux, qui ont été retrouvés dans plein de pays du monde. Puis c'est certainement plus ancien que ce qu'on veut nous faire croire.
Alors, tu me parlais de la créativité, que ça soit plus accessible à tout le monde.
En fait, pour moi, tout le monde devrait avoir une pratique créative. C'est thérapeutique à plein de niveaux, que ce soit juste pour du bien-être, du mieux se sentir avec soi, ou que ce soit curatif dans des cas plus aigus, en tout cas, de mal-être. En tout cas, pour moi, la créativité, c'est vraiment un sublimateur du malaise. Et l'argile est un support extraordinaire pour ça, parce qu'il offre une très grande liberté, justement, du faire et du défaire, et du refaire et du recommencer. Et c'est un dialogue intime avec soi qui amène de la douceur quand on malaxe l'argile, déjà. Donc c'est quelque chose qui nous adoucit et qui permet d'aller exprimer des émotions profondes aussi et de relâcher beaucoup de tensions. Moi, c'est quand même la sculpture qui m'a sauvé la vie, parce que j'étais quand même pas tout à fait sur le bon chemin, on va dire. Je viens de la banlieue parisienne, j'ai été dans des milieux un peu difficiles et très destructeurs. Et quand j'ai rencontré l'argile, j'ai senti que ça me guérissait, que je trouvais enfin un moyen d'expression et un moyen d'exprimer un mal-être par rapport à cette société, au monde dans lequel on vit, en tout cas. Ça m'offrait une liberté d'être. Et je trouvais ma place à travers ça.
C'est vrai que la terre, c'est malléable. On peut transformer assez rapidement, donner une forme à quelque chose de tangible, de concret devant soi.
Oui.
Et j'ai l'impression que toute la charge émotionnelle qu'on a à l'intérieur du corps, c'est comme si elle allait s'engouffrer dans la terre, quoi, dans la matière.
Absolument, absolument. C'est complètement thérapeutique. C'est un des outils les plus puissants de l'art thérapie, c'est l'argile.
Donc là, on arrive, on voit un bâtiment avec marqué Fonderie du Lac. On est à côté du lac de Sainte-Croix.
Non, de Carlabaille.
Du lac de Carlabaille. Et il y a une grande porte en métal. On va rentrer dans l'atelier.
Sésame, ouvre-toi.
Waouh. Ah ouais. J'adore le petit bébé africain, là. Ça, c'est un vrai bébé en plastique, en fait, là.
Oui. Trouvé à côté d'une poubelle. J'ai eu un coup de cœur, je l'ai adopté.
Tu l'as adopté, c'est oui. Ça. Un petit rescapé. Oh, c'était quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Un four?
Ça, c'était un four à déciré parce que c'est une ancienne fonderie de ouais. Bronze qui a servi pendant quelques années. Mais malheureusement, l'artiste qui s'en occupait principalement a eu un accident et du coup, il ne pouvait plus faire tourner cette fonderie. Ah. Donc le maire m'a proposé de récupérer cet atelier qui est très froid l'hiver hein, et qui est un peu aussi... l'été, ouais. On y est bien, mais c'est surtout l'intérêt d'être au pied du lac. C'est sympa l'été d'aller piquer une tête quand on a trop chaud.
Puis là, tu as de la place, il y a beaucoup de hauteur.
Oui, j'ai pas mal de place.
Ah, alors fais voir toutes ces petites sculptures. Là ça, tu les as patinées déjà, celles-là ?
Non, celles-ci, elles sont quasiment terminées. Et elles attendent la patine, en fait. Et aussi la numérotation et la signature.
D'accord. Donc, quand il n'y a pas de patine, là, c'est vraiment doré comme de l'or, ça brille.
Voilà, c'est la couleur du cuivre.
Ah ouais, c'est magnifique. Ouais.
Et là, il y en a une où on a passé la première couche à froid, dont je parlais tout à l'heure, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus sombre. Et elle va pouvoir être patinée avec des oxydes ensuite. Quoi.
Ouais, en fait, voilà. Ça, la patine, ça vieillit un petit peu, j'ai l'impression. Là.
Oui, ça peut vieillir.
Il n'y a plus d'âge, quoi. Mmh. Là, quand ça brille comme ça, oui. On dirait que ça sort de la matrice.
Alors, je vois que tu obtiendras comme ça, donc à base une fois que ça sera chauffé, on obtiendra des bleus à variante, en fait, comme si la pièce était restée dehors pendant des décennies, ce qu'on voit sur les chevaux équestres, les statues d'extérieur.
C'est ce qu'on appelle le vert de gris, là, non ?
Un petit peu, le vert de gris, oui.
Et du coup, au niveau des motifs, je vois que tu mets des spirales un peu partout, là, au niveau du nombril. Dans les chapeaux.
Des modèles, mais effectivement, sur tout ce qui est féminité, il y a souvent ce symbole de la spirale qu'on retrouve dans les sociétés très ancestrales. Hein, sur des gravures rupestres, on retrouve la spirale depuis les temps très anciens. Et pour moi, c'est la continuité, la fertilité, l'accueil. Ça représente beaucoup de symbolisme.
Il y en a d'autres qui ont des têtes de fleurs, de feuilles.
C'est ça, ce sont des femmes fleurs. C'est des déesses fleurs, c'est des déesses en rapport avec la nature aussi. Une déesse tombée de l'arbre, qui est une femme en forme de feuille.
Alors et lui, il est très filiforme, lui, là.
C'est une femme.
Ah pardon, je n'étais pas remontée parce qu'elle est tellement longue, j'étais encore en bas. D'ailleurs, elle n'a pas de pied, elle a comme une queue de...
C'est très stylisé.
Sirène, très stylisée, ouais.
Ça prend aussi souvent un côté un peu animal aussi. Moi, j'aime bien le rapport à l'oiseau et au poisson. Donc, j'aime le rapport au peuple du ciel et au peuple, le peuple aquatique. Donc, mes personnages ont parfois des ailes, parfois des queues de sirène. Et puis aussi des ailes de papillon aussi, hein, on retrouve.
Enfin, ah oui,
j'aime bien avoir un côté hybride dans le travail. Ça, c'était un autre univers. Je parlais de plusieurs univers tout à l'heure. Mmh. J'ai eu un univers à un moment où j'ai vraiment mélangé avec des formes animales aussi, le rapport du féminin à l'animalité. On a là-bas aussi des pièces avec des cornes que j'avais moulées. Et j'avais réalisé des espèces de sirènes à base de cornes. Donc j'avais fait des cornes d'abondance et qui... celles-ci, il y a eu un problème, mais sinon elles ont des queues de sirènes en bas, des queues de baleines. Et donc là, c'est vraiment un mélange hybride de cornes de bélier et ensuite d'un corps féminin.
Voilà, qui se transforme en corps féminin ou alors elle sort de la corne.
C'est ça.
En tout cas, il y a une fusion entre les deux.
C'est un habitacle aussi, voilà.
Ouais. Alors ça, c'est à toi ces sculptures.
Alors ça, ce sont les terres cuites de ma première vie en fait, hein, puisque au départ j'ai travaillé beaucoup la terre, comme je t'expliquais, et donc j'ai mes archives qui sont ici. Donc là, il y a toute la première, la première grosse décennie avant que j'aille en Afrique, où je travaillais beaucoup sur le volume et sur la rencontre des arêtes et des courbes, qui pour moi sont le reflet de nos pulsions et de nos retenues. La rondeur de la vie et aussi ses angles, ses brutalités, ses difficultés, ses épreuves. Donc pour moi, ce travail-là est vraiment la rencontre de nos mondes intérieurs, entre nos pulsions de vie et puis la joie et les moments plus difficiles qui se... Mmh.
Esthétiquement, ça me fait un peu penser à, tu vois, quand on voit les arêtes là dont tu parles là, et puis il y a une espèce de rotation là dans tes mouvements, à l'œuvre de Brancusi, qui est très, c'était le cinétisme, je crois, son mouvement, qui est très épuré. Enfin, c'est hyper moderne. Donc ça, c'était dans quelle année que tu as fait ça?
Ça, c'est les années 90, en fait. C'est de 90 à 2000, 2005, je travaillais beaucoup, beaucoup l'argile. Avant d'aller en Afrique, en fait, où après, je travaillais la cire. Et mon expression s'est diversifiée, quoi. Mais Brancusi a été effectivement un maître, il est toujours pour moi, parce qu'il a été beaucoup dans le côté épuré, en fait, des choses. Il est allé vraiment à l'essentiel de la forme. Et pour l'anecdote, au début, quand j'ai commencé la sculpture, j'ai commencé par la terre, je n'y connaissais strictement rien. On m'a offert un bloc de terre, j'avais travaillé le ciporex, un peu comme ça, j'avais gratouillé. Moi, je voulais faire de la pierre, et en fait, on m'avait dit « Oh, mais la pierre, c'est bien, mais tu devrais faire de la terre ». Ça ne m'attirait pas du tout. Je trouvais ça froid, mouillé, ça ne m'attirait pas. Mais j'ai quand même essayé. Et là, des fois, je dis, il faut oser aller vers ce qui nous fait peur. J'ai quand même essayé. Et là, j'ai passé une journée entière à modeler sans me rendre compte du temps qui passait. Et ça a été vraiment un déclic pour moi. Et une des premières pièces que j'ai fait, c'est une pièce que j'ai appelée la goutte de femme et qui ressemble vraiment à un fessier qu'on a de l'autre côté, là.
Ah, d'accord, qui ressemble vraiment à un fessier. Là, voilà. Bien charnu.
Ça fait une goutte d'eau, mais ça représente un bassin de femme. Et quelqu'un m'a dit, on dirait du Brancusi. Je ne connaissais pas du tout Brancusi, puisque je ne connaissais rien à l'art. Et après, j'ai commencé à me documenter.
Tu t'es un peu formée sur le tas, tu disais.
Oui, je suis autodidacte au départ, mais après, j'ai été m'inscrire, je suis remontée à Paris, parce que je vivais dans l'arrière-pays niçois. Et je suis remontée à Paris pour m'inscrire aux ateliers des Beaux-Arts de Paris pour adultes. Et là, j'ai fait histoire de l'art, et j'ai refait du croquis d'après-modèle. Enfin, j'ai fait des études d'art.
Oui, puis je pense que tous tes voyages, de toute façon, ils t'ont inspiré dans tout ce que tu as pu voir.
Oui.
Dans les musées, dans l'artisanat d'art.
Bien sûr, et dans l'art aussi, l'art égyptien. Je suis partie très jeune en Égypte, puis les Cyclades, la Grèce aussi au tout début. Et puis l'Équateur, le musée de Mexico, des choses comme ça m'ont énormément nourri sur le plan artistique.
Ouais, donc en fait, c'est une fusion de tout. Je veux dire, t'es un peu comme une éponge. Tu t'as pris. Non, mais t'es une éponge soyeuse. Non, mais tu te serais imprégné un peu de tout ce que t'as été. D'ailleurs, tu me dis que t'as besoin de nourriture quand tu voyages. Donc,
complètement.
Voilà, tu t'absorbes ça.
On a besoin de se nourrir artistiquement, spirituellement, littérairement. On a besoin de toute façon de s'emplir de belles choses ou des parcours de ceux qui nous ont devancés, quoi. Et après, ça fait son chemin. Puis c'est aussi la conscience universelle dans laquelle on puise. Curieusement, on retrouve des choses à différents continents, à des kilomètres. Donc il y a pour moi une réelle conscience universelle dans laquelle on peut accéder quand on veut y puiser des choses. On n'est pas juste ce qu'on apprend à l'école, je pense qu'on est beaucoup plus vaste que ça, quoi. Je viens de recevoir un colis des sculptures que j'ai fait cet hiver en Côte d'Ivoire. Le colis est parti il y a 3 semaines. Et ça arrive là. Tiens, c'est bien emballé. Ça pèse lourd. Donc chaque fois, c'est...
Attends, ma position.
Chaque fois, c'est un peu compliqué. Oh, ben voilà. À ouvrir.
Là, ça met 3 semaines
à peu près,
pour arriver.
Ouais, c'est ça. Et dedans, tu vois, on a des pièces qui sont aussi très très bien emballées. Donc c'est tout un boulot de... Ça, c'est une grande pièce que j'ai faite, que j'ai pu faire là, au Côte d'Ivoire, qui fait 1,70 m et qui représente une danseuse de flamenco, un peu, on va dire.
Ah, d'accord.
Et elle est en deux morceaux parce qu'on ne pouvait pas la couler d'une seule pièce. Donc elle est en deux morceaux.
Et du coup, le colis, il pèse combien là ?
30 kilos, à peu près.
Ah ouais,
28, sympa. 29.
Ah ouais.
Donc voilà, c'est quand même toujours un peu. Oh, puis elle doit être attachée de l'autre côté. C'est quand même. C'est physique, hein. Comme je dis toujours dans ma prochaine vie, je serai chanteuse. C'est toujours ça parce que, hop, juste un micro. Voilà. Ah, tu vois, on voit bien la forme là.
Ouais,
Et puis là aussi, feuille, avec les deux bras. Mm-hmm. Mais bon, il y a encore pas mal de boulot.
Je te laisse la montée là, l'ouvrir et la monter.
Voilà.
Là, quand tu crées, toi. T'es dans quel état en fait quand tu composes une sculpture comme ça là ?
Complètement bourré, non, je déconne. non, pas du tout. En fait, je suis bien parce que je suis là dans l'instant présent en fait. C'est juste ça en fait. Et donc au début, quand je prends la terre, je sais pas ce qui va se passer. J'essaye d'être juste là, l'instant présent. Des fois, j'écoute de la musique, plutôt la musique douce en fait, plutôt que quelque chose de trop brutal. Je pense que je suis dans un état catharsique un peu de connexion au grand tout. Mmh. Et c'est pour ça que les choses peuvent arriver, peuvent se manifester.
Tu peux dire que tu t'oublies.
Oui.
On t'est plus du tout dans le mental. Hein.
Ah non, plus du tout. Pour moi, mes mains sont un outil par lesquels passe autre chose. Ouais. D'ailleurs, j'ai déjà ressenti, en ayant fumé, j'ai ressenti vraiment des mains sur mes mains. Et j'avais l'impression que c'était pas moi qui travaillais, que c'était les mains qui guidaient mes doigts, quoi.
Ouais, c'est ça. T'es un peu comme un vecteur, un canal. En faisant le vide et en te concentrant, finalement. Tu reçois,
tu te connectes en fait, tu te connectes à plus grand que toi en fait. C'est comme dans la méditation, hein. C'est une forme de méditation, hein. Et quand tu t'autorises à ça, que tu te donnes cet espace-temps là pour ça, et ben il peut se passer des choses merveilleuses, quoi. Il y en a qui sont beaucoup plus cérébrales, qui sont vraiment aussi, vont interpréter des choses politiques, ou ils vont justement revendiquer des choses, ou exprimer leur colère, ou à travers leur art, de ce qu'ils vivent globalement dans la société, où chacun a son expression propre. Moi, ce qui me nourrit, c'est aussi de recréer de l'harmonie, en fait. Je dis souvent, j'essaie de remettre un peu d'ordre dans le chaos à mon échelle. Voilà, ouais, à ma petite échelle.
Bah, du coup, je veux bien qu'on retourne à tes femmes déesses là, qu'on a vues au début.
Le premier homme aussi, au fond.
Ah, mais c'est lui, le premier homme.
Ouais.
Oh, je vais essayer de le décrire un petit peu, là. Et bah, c'est vrai que quand on regarde tes sculptures, on est apaisé, quoi. Il n'y a pas de violence, c'est doux, c'est centré, il y a de l'humanité, quoi, dedans.
Merci.
Et elle est géniale. Bon, alors, je vais essayer de le décrire. Tu me dis si je me...
Le premier homme.
Ouais, alors le premier homme, ben, ça marche bien. Je me mets à côté, il est plus grand que moi, en fait. Là, il doit faire
1m90.
Il est en bronze. Il est posé sur un carré.
Un carré
lourd, bien lourd, de la taille de ses pieds. Donc voilà, il est posé sur des pieds qui sont un petit peu en relief. Et après, tout son corps va monter vers le ciel. Mais comme si j'ai envie... Excuse-moi l'expression, j'ai l'impression qu'il y a un autobus qui lui est roulé dessus, en fait. Il est à plat, mais c'est pas un squelette. On voit qu'il y a eu de la peau, quand même. Donc, on voit ses mollets, ses cuisses. Il a une toute petite taille, très fine. Sous les bras aussi, c'est très fin. Et là, il a des épaules un peu plus larges, avec des grands bras très longs. Des belles mains qui sont tendues vers l'avenir, vers devant, comme je reçois, quoi.
Et on accueille aussi.
Voilà, on accueille. Il a un petit cou très fin et il a une tête oblongue, un peu comme un Bouddha, avec des grandes oreilles, les yeux fermés, presque en posture de méditation. Voilà. Et tu voulais dire quoi par rapport à...
C'est ça, en fait. C'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est, j'ai passé 3 jours dans ce temple Jain d'Inde du centre, où il y a ce Bouddha en pierre qui est représenté. Et je suis partie, je suis rentrée en France et je suis repartie une semaine après pour créer en Afrique. Et pour moi, c'est vraiment la rencontre de l'ancestralité de l'Afrique, parce qu'il a un côté Maasai aussi, dans sa longitude très... très très fine, des épaules larges, un peu de guerrier quand même, de guerrier de lumière. Et puis il a cette posture d'accueil, les mains ouvertes vers l'avenir, mais aussi vers les gens qui arrivent, quoi. Et il y a de l'ordre de l'offrande, donc il est très accessible en même temps, comme tu dis. Il a les yeux fermés, il est dans l'introspection, dans la réceptivité, et il est prêt à tout accueillir, en fait, quoi. Il est open, quoi. Il est vraiment ouvert à l'amour.
Et pourquoi tu as fait les pieds de cette manière ? Est-ce que...
Ça, c'est pour aussi... parce que, je sais pas, ça donnait un peu de volume aussi à tout plat. Ça aurait pas été aussi joli. Moi, je trouve que le visage aussi a du volume. Donc, je sais pas, je me suis pas posé la question, je t'avoue.
Non, il chose du combien ? Non, je rigole.
pas si grand, mais un petit 40.
Ah, c'est beau, hein.
Ouais, après, c'est une pièce qui s'emboîte dans les pieds, en fait. Elle a été faite en deux parties. Parce que sinon, les chevilles auraient été trop fragiles pour supporter une telle pièce de bronze. Donc, les chevilles rentrent dans les pieds.
S'emboîtent sur les pieds.
Voilà, ils s'emboîtent.
C'est ça.
Donc, on transporte le corps à plat et puis le socle à côté avec les pieds.
Mmh. Et cette bonne femme, là ?
Ça, c'est une Vénus qui a été exposée sur le parvis du Carlabaille pendant pas mal de temps, genre 3 ans à peu près, sauf qu'elle est en résine et qu'elle a été dégradée.
Ah ouais,
elle
c'est
a été abîmée, donc ça, c'est vraiment une belle Vénus, quoi, tous les attributs d'une Vénus, hein, d'une déesse. Mais il faut que je la restaure. C'est une pièce... Bon. Dans un jardin, si personne n'abîme, elle va très bien. Mais c'est bon, sur un parvis public, c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui s'amusent à dégrader. Il y a des graffitis dessus. Ils ont tenté la coucher.
Donc tu vas la restaurer peut-être et puis
je vais la restaurer
dans un jardin
pour pouvoir la représenter.
Ouais, très belle, hein.
Ouais, c'est une belle pièce. Ouais. Il y a même des phallus dessinés dessus, dans le dos de la Vénus, quand même. Donc,
sacré tatouage.
Voilà.
Ouais.
Parfois, exposer des pièces en extérieur, c'est vraiment toujours prendre des risques. Hein, tu vois.
Ouais, il y a des prénoms gravés.
Elle est griffée partout. Il y a quand même des fois un non-respect. Pourtant, elle est pudique. Je veux dire, elle n'est pas provocatrice ni quoi. Mais il y a toujours un non-respect des œuvres d'art en extérieur. C'est quand même dommage.
J'ai envie de dire un truc, mais c'est des œuvres d'art, mais c'est aussi encore ce qu'on peut faire aux femmes encore aujourd'hui, quoi.
Ouais, carrément. Carrément.
C'est ça, dès qu'il y a un corps nu, de toute façon, il y a une interaction. Hein.
Donc c'est intéressant quand même de voir qu'on a dessiné des phallus dessus.
C'est ça. Voilà. Merci Nadine pour la visite de ton atelier.
Mais avec plaisir, ma chère Stéphanie. Aussi, je veux dire, surtout les voyages m'ont nourri sur le plan humain. Moi, ce que j'aime, c'est rencontrer les gens aussi, connaître leur histoire, leur façon de voir la vie, s'ils sont raccordés à une essentialité de vie ou ils sont déjà perdus dans la surconsommation. C'est trouver, rencontrer, échanger avec des personnes qui ont une reliance à l'ancestralité, aux rites ancestraux, donc l'animisme, tout ça, ça m'intéresse beaucoup, tu vois, les croyances dans des pratiques, même ne serait-ce que aussi la magie des plantes, tout ça, c'est lié.
Oui, et du coup, toi, malgré tous tes va-et-vient par Mons et par Vaud, tu as choisi de t'installer en Ariège ou comment t'es restée là? C'est plutôt ça.
Ouais, c'est ça, c'est comment on reste là. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir exposer à Hong Kong. Et à Hong Kong, j'ai rencontré quelqu'un qui habitait le Carlisle, qui avait une galerie au Carlisle. Et moi, à ce moment-là, j'habitais à Terre Blanche, qui est un lieu alternatif à Saint-Lys. On habitait là-bas, donc, avec mon mari africain, un Burkinabé. Et donc, c'est en allant exposer à Hong Kong que j'ai rencontré... je connaissais le Carlisle, hein, j'avais voulu exposer, mais je n'avais pas trouvé de possibilité, parce que ce n'est pas facile d'arriver à exposer au Carlisle. Voilà. C'est pas toujours simple. Et bref, donc cette personne avait une galerie et il a apprécié mon travail. Il m'a dit, si vous voulez, je vous expose l'été prochain. Et ça a commencé comme ça. Et donc, il m'a exposé pendant 3 années de suite. Et puis moi, j'avais envie de quitter Terre Blanche. Ça me correspondait plus, le côté collectif, alternatif. J'avais vraiment envie d'autre chose. Et puis, voilà, le maire m'a proposé un terrain. J'avais vraiment pas beaucoup de sous, mais j'ai acheté le terrain. Et puis ensuite, j'ai construit une maison en bois. J'ai commencé à vivre dedans et puis c'est resté ma maison. Et maintenant, je loue un atelier à la mairie.
Et maintenant, tu as ta propre galerie.
Oui, mais c'est à la mairie aussi. Hein. Enfin, ouais. Je loue aussi à la mairie. Non, après, il y a un espace de danse. Il y a un espace des activités autour de tout ce qui est déploiement intégral.
Tu as plusieurs bras à ton corps, toi. C'est Ganesh,
non hein? C'est ouais, Ganesh, mais Shiva aussi.
Ah, Shiva. C'est ça. Merci Nadine.
Merci.
Alla dani sotturala face so sotturala alla dani simala face so simala ni ala so sotura isa ke sotura kan alla dani sotturala face so sotturala alla dani simala face so simala ni ala so sotura sake sutura kun saluato sita alinga miringa sari saluato sita
Nadine n'a pas de progéniture, mais elle a des projets et ne cesse de mettre au monde, comme une enfant qui s'émerveille constamment des premiers pas de l'homme qui trébuche. Des êtres surhumains, des déesses, des dieux sortis du magma en fusion, femmes du monde qu'elle traverse, elle capte les histoires et les mythes des peuples. Rien ne lui échappe. Le grand tout passe dans ses mains et se transmute en amour, en énergie, en paix pour l'humanité. Finalement, n'est-ce pas cela, donner la vie ?
Badamasa, Fanamasa,
C'était Garder les yeux ouverts, une émission socioculturelle proposée et réalisée par Stéphanie Andrès. Tous les mercredis et samedis, entre 17 et 18 heures, et en rediffusion pendant un mois. À réécouter en podcast sur le site de radiokipik.org. K-I-P-I-K.